Pour parler bricolage, pour parler bon coup à boire, nous sommes au THSF 2023 dans le hall du cinéma Utopia Bordeaux Rouge et on a réussi à choper au passage Philippe Martorell. Donc du coup, c'est le sujet de notre interview. L'animateur des Cafés Bricoles, un des piliers du Fabriqué, espace Fab Lab à Ramonville, fondateur du site Agenda La Bricole Toulousaine et a un air de vieux sage barbu, mais en fait, méfiez-vous, il planque des élastiques dans sa barbe. Philippe, quand es-tu tombé dans la bricole ?
Oh là ! J'ai des souvenirs dans ma jeunesse d'avoir démonté mon réveil matin, un bon vieux réveil avec des pignons.
Des pignons ? Comme des pignons de pain ?
Ah ! Des pignons comme
mécaniques ?
Des mécaniques qu'on remonte chaque jour et qui fait tic-tac. Et c'était.
C'est une bombe.
Mais c'est non.
Bombe. Faut pas le dire.
Les bombes d'aujourd'hui, elles ne font plus tic-tac, voyons. j'étais très 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 content d'avoir réussi à la remonter. Et bon, il marchait pas mon réveil parce que j'avais utilisé des outils magnétiques, des tournevis aimantés, et donc ça le fait pas avec.
Avec les mécanismes, oui, tu les mets.
Des pignons magnétisés, ça marche pas sur un réveil.
Comment tu as créé ton café bricole ?
Suite à une interrogation d'une personne qui m'avait interrogé sur un stand du Theta Lab, qui m'a posé la question.
On va préciser, le Theta Lab, c'est le hackerspace de Toulouse qui existe depuis 2008 et qui avait co-lancé le THSF. Voilà.
Tout à fait. Et donc, la question était, où est-ce qu'on peut apprendre à réparer sur Toulouse ? Eh bien, la réponse était ça n'existe pas. J'ai trouvé ça honteux. Et puis, derrière, je m'y suis collé.
Il y a un mouvement qui s'appelle le Reaper Café qui existe. Est-ce que c'est payant ? C'est une franchise, un peu comme Fab Lab, par exemple ?
Effectivement. maintenant, dire que Fab Lab est une franchise, c'est un peu
Je vais me faire taper par les copains, par Richard.
Mais par contre, ça convient tout à fait au Reaper Café, où effectivement, il y a une licence à acheter et qui permet d'utiliser leur site internet pour intégrer leur cartographie. On doit utiliser expressément leur logo, respecter la charte graphique et avoir tout qui correspond au visuel des Reaper Café. Donc
c'est une franchise finalement.
Tout à fait. Mais c'est quelque chose qui m'a personnellement pas plu. J'ai voulu être que ce soit libre et donc on a juste cherché un autre nom et on a fait la même chose.
Toi aussi tu proposes une licence payante avec une charte graphique.
Non, pardon, tout à fait la même chose. On a créé des lieux de réparation participatifs et contrairement au Reaper Café, on insiste bien sur le côté participatif, c'est-à-dire que les aides réparateurs, normalement, ne touchent pas l'appareil en panne. C'est les propriétaires qui dépannent avec la supervision des aides réparateurs. Et ça, c'est une chose très importante. On prône l'autonomisation de l'utilisateur. Ce qui est important, c'est de s'approprier complètement les objets du quotidien et non pas estimer que c'est un objet consommable. L'idée, bien sûr, est de sortir de la société de consommation, d'aimer les objets qu'on achète. Et pour commencer à aimer, il faut lui ouvrir les tripes.
Est-ce que les Reaper Café, Café Bricole, etc., ça a adossé à un autre mouvement, comme par exemple Emmaüs ?
Malheureusement, pas trop. Il y a quelques ponts, en particulier sur la recyclerie de Castanet, qui à la fois récupère des objets et font des ateliers de réparation. Et ils réparent des objets qui récupèrent eux-mêmes et qui mettent en vente dans leur recyclerie.
D'accord. est-ce qu'on a une estimation du nombre de lieux qu'il y a ou d'organisations, justement, Henri par café et tout ça?
Je viens de les recompter hier. Et sur notre carte, on a une trentaine de lieux, mais tous ne sont pas actifs et tous ne sont pas régulés chaque mois. Par exemple, il y a des équipes qui tournent sur 4 ou 5 lieux de mois en mois. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est il y a un atelier par mois par équipe, mais les équipes ne retournent pas au même lieu chaque mois. Et ils ont un cycle de 4 ou 5 lieux.
Et donc c'est tournant et tout ça.
En fait, on peut dire que les rendez-vous sont plus ou moins aléatoires, suivant les équipes. Et il est important de regarder le site internet cafébricole.fr qui récapitule toutes les dates et tous les lieux.
Est-ce qu'il y a des marques ou des magasins qui sont sympathisants, voire qui vous soutiennent, qui disent ben, on est prêt à vous accueillir un samedi quand on a du monde?
Absolument. Actuellement, depuis une petite année, le Roi Merlin s'intéresse à ce principe. Personnellement, j'anime le Café Bricole de Roc. Et puis, il y a...
Alors, je précise pour ceux qui ne sont pas natifs de la région de Toulouse. Roc, R-O-Q-E-S, ça n'a rien à voir avec la salle de concert Le Bikini. Hein. C'est Roc sur Garonne.
Tout à fait, Roc sur Garonne.
Ni le Garou Roc.
Donc effectivement, le Roi Merlin s'intéresse à ce principe et c'est certainement très bien puisque normalement ce genre de grand magasin s'adresse à des bricoleurs. Donc ça tombe bien, on est dans le public qui nous intéresse. Malheureusement, on n'a pas un public très nombreux. On tourne à entre 2, 3... jusqu'à 5 personnes par séance, et c'est pas énorme par...
Si je me trompe, et je suis désolé par avance auprès de l'ARCOM parce que je vais avoir du mal à trouver deux autres concurrents qui font pareil, je crois que le Roi Merlin, dans ses marques blanches, dans les produits qu'ils vendent sous leur propre marque, maintenant, il y a les schémas et il y a les pièces détachées qui sont disponibles et qu'on peut faire imprimer d'ailleurs en magasin.
Waouh, j'ignorais. Très
j'ai dit si je me trompe, c'est à vérifier. Hein, mais
j'ai effectivement un souvenir dans mon enfance de
parce de que plein. Ça date d'il y a 4 ans hein, à peu près.
Hein, oui, moi c'était il y a 40 aussi. Ans, effectivement.
J'ai pas mesuré la barbe pour indiquer ton âge à la radio et ce serait compliqué visuellement, mais bon.
Il y a 40 et plus, dans les appareils électroménagers, genre une machine à laver, même un poste de radio, tu avais le plan scotché à l'intérieur de l'appareil. C'était génial, ça. C'était avant Internet.
Et tu sais que pour l'Apple II, si on avait le plan dedans, c'est parce que si Steve Wozniak avait insisté, son secret espoir, c'est que les gens comprennent comment marche l'ordinateur et le réparent par eux-mêmes. Et tous les fabricants de micros de 8 bits, je dis ça parce qu'il y a le centre derrière là de nos amis de Silicium, si tous les fabricants de 8 bits avaient mis aussi des schémas logiques et des schémas explicatifs, ils ne comprenaient pas que le but, c'était justement d'introduire leur propre concurrence. Et c'était le vieux reste du club d'électronique amateur dont faisait partie Steve Wozniak. Où et quand on peut vous voir?
Eh bien, je l'ai déjà dit, il faut voir sur le site internet cafébricole.fr, qui est la référence de tous les rendez-vous.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Philippe Martorel, animateur des Cafés Bricoles sur la région toulousaine. Philippe, on a dit, donc effectivement, vous allez dans des magasins, dans des lieux. En général, c'est plutôt de l'associatif ou plutôt des lieux commerciaux? Les lieux commerciaux sont partants vraiment pour vous prendre, ou ça se fait plutôt dans les lieux associatifs parce que c'est plus facile à s'installer?
Les lieux commerciaux sont plutôt l'exception. Effectivement, le lieu associatif ou tout lieu collectif et culturel, on les pousse à ouvrir des rendez-vous de ce type. Il y a des MJC, il y a des lieux comme le collectif La Maison à Ramonville, il y a les lieux habituels de la mairie, comme les maisons de quartier, etc.
Quel est le public qui vient? Est-ce que c'est un public qui est récurrent ou c'est un public occasionnel? C'est un public qui, comme par hasard, pète régulièrement les mêmes objets pour revenir, ou c'est...
Alors,
ils reviennent pour voir les copains.
Il y a franchement un côté social. Effectivement, il y a certaines, j'ai pu constater certaines personnes qui revenaient régulièrement avec parfois le même objet qu'on avait déjà dépanné, rien que pour visiblement avoir de l'interaction sociale, jouer, je sais pas trop, mais ils sont toujours les bienvenus.
Il y a où ils sont particulièrement maladroits.
Ouais, c'est possible. Maintenant, des fois, on se pose la question, est-ce que les gens ont vu réellement une panne sur leur objet ? Parce que quand ils arrivent avec leurs appareils, on les branche, ça marche.
Tu sais très bien qu'en support informatique niveau 1, l'option de fermeture ticket qui marche toujours, c'est « works for me », ça fonctionne chez moi.
Je sais bien.
Ou alors c'est qu'ils lisent pas le manuel.
Mais je sais pas. Question manuelle, c'est vrai que il y a beaucoup d'erreurs de manipulation. La sécurité qui n'est pas en place, verrouillée, la personne qui a pas tourné son bol du mixeur suffisamment pour que effectivement la sécurité soit en place, ou l'interrupteur caché à gauche ou derrière n'est pas sur marche. Ça arrive aussi.
Et pour les occasionnels, comment en fait ils entendent parler de vous ? C'est par les réseaux sociaux ? C'est parce qu'il y a eu une affiche ? C'est parce qu'ils vous avaient vu une première fois, ils se disent « Ah ben ça tombe bien, j'ai mon vieux téléviseur Telefunken magnétoscope à ramener ?»
Magnétoscope, on évite.
T'as tort, le cabestan, que des heures de plaisir à régler la zinétage.
Très, très joli, et très joli le déroulement de la bande autour du cabestan, c'est magnifique. bon, on passe sur ce côté plutôt obscène, excuse-moi. Les personnes qui nous connaissent la plupart du temps par d'une part le bouche à oreille et d'autre part par Internet. Sur Internet, on utilise Demosphère, un très bon agenda participatif qui nous permet d'enrichir notre calendrier directement. Donc c'est plus sur les lieux alternatifs où ils entendent parler de nous. Il y a le bouche à oreille, bien sûr, et aussi par le fait que généralement ces ateliers-là ont lieu dans des endroits où il y a beaucoup de passages. Donc il suffit qu'il y ait une personne qui passe dans le lieu pour autre chose que le café Bricole, qui voit cet événement-là et qui ensuite peut le retrouver.
Donc on a parlé justement, on avait dit que ça s'est lancé quand les cafés Bricole, 2015 à peu près, 2015-2016
C'était il y a 8-9 ans maintenant.
Mais comment faisait-on avant ?
Ben on jetait, comme d'habitude. Malheureusement, il y a quelques personnes qui ont toujours bricolé. Mais il y a, malheureusement, les bricoleurs, généralement, bricolent chez eux, dans leur coin, dans leur garage, et ne vont pas à la rencontre des autres. Et c'est un peu ça que je suis très fier d'avoir mis en place, c'est la communication entre les bricoleurs et le grand public, pour que le grand public apprenne que bricoler est à leur portée et que c'est possible. C'est quelque chose qui n'est pas habituel chez les bricoleurs. Ils sont prêts à discuter entre eux. Dans les Fab Labs, c'est typique. Les gens qui commencent à savoir partagent volontiers avec les autres qui savent, mais pas avec des béotiens. Il faut vraiment faire un effort pour expliquer aux gens comment utiliser un tournevis, comment on contrôle un circuit électrique, etc. Et ça, cet effort, c'est pas une chose habituelle chez un bricoleur confirmé.
Par rapport à la France, l'Angleterre, il y en a un peu plus. Est-ce que ça vient du mouvement Do It Yourself qui est assez historique depuis les années 60, 70, 80 ? Ou est-ce que cela vient du Brexit et de la paupérisation générale de l'archipel ?
Eh bien, je n'en sais rien. Je répondrai pas à cette question. Effectivement, je connais la population de Toulouse, mais au-delà, c'est...
Non, ça va, ok. C'est une question pour rien. D'accord, ok. Par contre, question utile et vraiment écrite sur la fiche, est-ce que les appareils étaient plus solides avant ?
on en revient à la société de consommation. Il est clair que aujourd'hui, si un industriel veut vendre son appareil, il faut qu'il soit moins cher que l'autre, que le concurrent. Donc nécessairement, il va rogner sur la qualité. Il va certainement pas rogner sur sa marge. Donc aujourd'hui, pour survivre, un fabricant doit fabriquer de la merde.
Dans les années 70, un frigo, ça coûtait facile un SMIC. C'est peut-être la différence aussi.
Certainement. À partir de là, on n'a jamais que le matériel qu'on paye.
Est-ce que tu comprends que des gens aient une réticence à réparer quand vous leur dites ben, « c'est à vous de le faire » Comment ils réagissent?
Il y a une réticence parce qu'il y a un sentiment d'incompétence. En fait, tout est fait aujourd'hui pour interdire l'appropriation de l'objet. Pour moi, c'est lui ouvrir le ventre, comme je l'ai déjà dit. C'est très important de franchir un pas psychologique pour s'autoriser à ouvrir un appareil tant les restrictions inscrites sur l'appareil sont énormes. Les étiquettes, ne pas ouvrir danger. Les étiquettes, vous perdrez la garantie si vous l'ouvrez. Les vis inviolables, les systèmes de fermeture qui ne sont pas évidents, voire les appareils fabriqués indémontables. Il y en a où la coque extérieure est surmoulée sur la partie intérieure et donc il n'y a aucun moyen d'ouvrir sans détruire. Donc aujourd'hui, en plus de l'incitation à changer d'appareil juste pour la mode ou pour en avoir un plus sexy, il y a aussi l'incitation à ne pas se sentir possesseur de l'appareil. Et ça, c'est un frein psychologique énorme. Et c'est ce que l'on, je crois, la chose la plus dure à combattre. Je reviens à mes souvenirs d'enfance. Effectivement, j'avais des parents qui ne m'engueulaient pas quand je cassais mes jouets. C'était vachement important. Comprendre comment marche son jouet, il n'y a pas d'autre solution que de lui ouvrir le ventre. Et je vous en prie, parents, n'engueulez pas vos enfants quand ils cassent leurs jouets. C'est, pour leur éducation technique, c'est très, très, très important.
Et c'est ainsi que dans 20 ans, nous aurons une génération de psychopathes qui ouvriront le corps des poupées. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Philippe Martourelle pour parler des cafés bricoles et autres engences à réparer plutôt qu'acheter. Quelles sont les pannes les plus pénibles à réparer que tu vois passer?
Celles qu'on ne comprend pas. Effectivement, les objets d'aujourd'hui ont tendance à... pour plaire aux consommateurs, pour se distinguer des autres, des concurrents, ont tendance à faire clignoter des LED, à avoir une programmation pour se mettre en route à telle heure, être tout le temps allumé pour que ça puisse se déclencher avec une télécommande, etc. Ces objets-là, où de l'électronique a été rajoutée pour des fonctionnalités douteuses, la plupart du temps... C'est le bout d'électronique qui a été rajouté, qui est complètement inutile.
Tu penses au test de grossesse avec lecture électronique?
Ah putain, je n'attendais pas celle-là.
Ah désolé, elle est passée au petit pipi. Mais outre justement cet abus d'électronique et tout ça, il y a aussi des fois les pannes logicielles qui sont chiants de ce côté-là.
Alors perso, je refuse de mettre les mains dans une imprimante qui est le cas typique. Il y a les imprimantes d'aujourd'hui, les moins chères, sont vraiment des attrape-couillons pour
Surtout les imprimantes âgées, donc.
Absolument. Le prix d'achat est ridicule. Par contre, tout est fait pour que les cartouches soient incompatibles. Qu'il n'y ait pas de cartouches compatibles, pardon. Et le fabricant se rattrape sur le prix des cartouches. Je trouve ça d'une démarche complètement lamentable et infâme.
Oui, en mars 2023, HP a fait une mise à jour pour rendre incompatibles des cartouches compatible de fabricants tiers et a briqué énormément d'imprimantes à tel point qu'il y aurait une class action qui serait en cours de constitution aux États-Unis et probablement en Europe aussi, il y a des questions de ce côté-là. Mais sinon, c'est quoi qui ralentit le plus sur la réparation ? C'est l'absence de pièces détachées, des outils spécifiques comme les tournevis en étoile à 7 branches Pentalo B ou les composants totalement obscurs, l'abus de colle, les matériaux trop cheap ?
Alors, l'abus de colle, étonnamment, c'est souvent compréhensible. Par exemple, les petites enceintes USB qui sont remplies de colle, c'est compréhensible parce que un truc qui vibre va brinque-baller avec les vibrations si tu noies pas tout ça dans la colle.
C'est ça, d'amortisseur. Donc, ouais.
C'est pour empêcher que les composants rajoutent un bruit dans l'enceinte. Et effectivement, quand on y réfléchit, c'est relativement logique, mais tu peux plus réparer quoi que ce soit là-dedans. Non, la plupart des pannes sont, quand elles ne sont pas réparables, sont relativement logiques. Je pense aux résistances dans les appareils, tout ce qui est appareil chauffant, que ce soit une bouilloire, une cafetière ou un grille-pain. Si l'élément chauffant est HS, la réparation ne vaut pas le coup.
Et sinon, des fois, une coque plastique pétée, ça peut être réparé, ça peut être...
Une coque plastique pétée, généralement avec un bout de scotch, ça va.
Et quand faut-il dire, bon ben là, on ne peut pas, il faut remplacer ?
Eh bien, je viens de le dire, effectivement, quand des éléments chauffants, enfin, quand la pièce n'est pas accessible ou est l'élément principal de l'appareil... généralement, ça ne vaut pas le coup de remplacer. À l'inverse, les trois quarts des pannes, c'est des choses extrêmement simples. En particulier, le câble d'alimentation qui est cassé, la plupart du temps, au niveau de la prise secteur, ne tirez jamais votre prise secteur par le câble. Il faut prendre la prise en main pour la tirer de la prise murale. C'est un classique, mais c'est une des pannes les plus récurrentes et qui est très facile à dépanner.
Typiquement, qu'est-ce que vous faites en fait comme type de réparation ? Qu'est-ce qui revient le plus souvent ?
Alors les appareils qui...
À part le câble, principalement donc ?
Souvent, oui.
Je sais que des fois, on débranche la télé sans le vouloir en se posant un croche-patte chez soi. Bon, le problème, c'est qu'elle est plate et qu'elle tombe.
Entre ça et les piles usées, ça nous arrive aussi, souvent.
L'appareil ne marche pas.
L'appareil est en panne, il faut changer les piles. Bah voilà. Classique. Je parlerais plutôt des appareils qui tombent en panne qu'on voit le plus souvent. Il y a les grille-pains, il y a les aspirateurs, il y a les cuiseurs de riz et il y a les robots ménagers. Ces quatre catégories sont le principal de nos deux panaches.
Robot ménager, c'est quoi ? C'est le moteur, c'est l'engrenage qui lâche en général ? Ou le blocage de l'outil ?
C'est assez variable. C'est assez variable.
En général, c'est à vitesse variable, leur moteur.
Ah, mais non. C'est souvent la sécurité. Il y a toujours une sécurité pour vérifier que le bol du mixeur est en place. Il y a souvent un fusible thermique. Un fusible thermique bien caché quand l'appareil surchauffe, déclenche et donc définitivement met l'appareil hors service. définitivement avant qu'on le répare. Mais c'est caché à l'utilisateur. Ce n'est pas une pièce accessible, mais il suffit de remplacer cet élément de quelques centimes pour redémarrer l'appareil.
En général, c'est là, c'est pour éviter aussi un risque d'incendie.
C'est vrai, mais il y a d'autres systèmes. Il y a des systèmes à réenclenchement qui existent. Mmh. Donc le fait que ce ne soit pas réarmable est quand même une volonté du fabricant pour, que ce soit que l'appareil soit renouvelé plutôt que dépanné.
Quel est le type de public qui vient vous voir ? C'est plutôt des jeunes, des personnes âgées, des cas de sup pour des raisons d'écologie ou des personnes justement qui sont paupérisées au RSA ?
Alors il y a effectivement une bonne population de personnes qui sont sensibilisées à la cause écologique. Mmh. Bien évidemment, j'approuve. C'est d'abord le sentiment que jeter ne va pas dans le bon sens pour la planète. Ensuite, j'espère que je ne vais pas être pris pour un misogyne. Culturellement, le dépannage, c'est l'apanage des hommes. Et donc, une femme qui se retrouve seule, après avoir été habituée à se reposer sur son ex, se retrouve démunie, surtout par le frein psychologique. Donc, on a quelque chose comme 70% de femmes dans notre public. Mmh. Et c'est quelque chose qui est assez surprenant, mais compréhensible, qu'on aide à franchir franchir le pas plutôt à cette population-là.
Donc en fait, faites œuvre d'empowerment, quelque part.
Ah, complètement, complètement. Il y a aussi des tas d'hommes qui n'ont jamais touché un tournevis, bien sûr, qui viennent nous voir. Mais c'est quand même frappant de voir cette séparation genrée sur l'appropriation du bricolage.
Et des fois, on vous dit, venez chez moi.
Ça arrive. Les frigos, les choses comme ça, les machines à laver. Malheureusement, on refuse puisque on n'est certainement pas un service. Donc, voilà.
Si quelqu'un doit acheter un appareil neuf, quel serait le conseil que vous donneriez ?
La première chose, c'est est-ce que vous en avez vraiment besoin ? Je pense au grille-pain. Qui est pour moi un objet lamentable en termes écologiques.
T'as pas vu les yaourtières ?
Alors, les yaourtières sont défendables, à mon avis. Les yaourtières sont défendables parce que tu as la satisfaction de produire ton propre aliment.
Bon, d'accord, ok.
Mais le grille-pain, lui, est typiquement un objet qui consomme de l'énergie pour pas grand-chose. Quel intérêt on a à avoir du pain grillé plutôt que du pain ?
Vaut mieux manger ses croque-monsieur froid, monsieur, c'est pour l'écologie.
Tu mets pas de croque-monsieur dans un grille-pain, je te rappelle.
Est-ce que acheter de la marque, c'est intéressant ?
Les fabricants, les marques, fabriquent à la fois de la merde et des produit bien. Il y a commercialement un gros intérêt à faire ce qu'on appelle une gamme, c'est-à-dire faire des appareils corrects et faire des appareils moins chers. Et entre les deux, c'est pas un choix, c'est qu'il faut offrir pour le fabricant des objets qui correspondent à chacun des budgets.
Et si quelqu'un doit acheter un appareil d'occasion, quel conseil sera lui donné ?
C'est déjà un bon choix parce que l'occasion, généralement, c'est des appareils plus anciens et qui, effectivement, sont de meilleure qualité que les appareils d'aujourd'hui.
Petite Marc Noël, nous arrivons à la fin de notre interview. Que faut-il faire pour réparer cette interview ?
Il faut trouver la panne, déjà.
On retrouve l'agenda pour ceux qui sont donc en région toulousaine sur cafébricole.fr, si je me trompe.
C'est ça.
On mettra le lien de toute façon sur la page web de l'émission. Et pour les autres, donc, il y a effectivement Henri Père Café. On mettra le lien. Philippe, merci beaucoup.